c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, en septembre dernier, 193 pays se sont engagés à New York à atteindre 17 objectifs de développement durable. Objectif 6, garantir à tous l'accès à l'eau, à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau, le tout d'ici 2030. 2030, c'est demain. S'il y a des progrès, près de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable. Les États ne se mobilisent pas assez sur les enjeux essentiels de l'assainissement et la ressource elle-même est menacée par les changements climatiques. Nous faisons le point sur tous ces sujets avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Je vous dis au revoir. Merci, mes amis.
Et il parlait du siècle dernier, hein. C'est l'agronome René Dumont à la télévision française le 19 avril 1974, un verre d'eau à la main, il était alors candidat à l'élection présidentielle. Depuis, peu de candidats finalement ont bu un verre d'eau à la télévision, notamment dans les pays africains, où pourtant ça pourrait être un thème de campagne. État de la ressource, accès à l'eau potable et à l'assainissement, quelle est la situation? Avec nous pour en parler, quatre invités. Christelle Maléguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de la coalition Eau qui réunit une trentaine d'ONG françaises. C'est ça.
Parce que le secteur de l'eau et de l'assainissement.
À plusieurs, on est plus fort.
Exactement, à plusieurs, on est plus fort et on peut ensemble essayer d'impacter les politiques pour changer la situation.
Oui, parce qu'il y en a bien besoin. On va en parler à vos côtés. Cassie Brenière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la division eau et assainissement à l'AFD, l'Agence française de développement, qui a des objectifs assez clairs en matière d'eau et d'assainissement.
Oui, effectivement, on engage chaque année à peu près 700 millions d'euros dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, et même 835 l'année dernière.
Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens qui nous écoutent, ces chiffres-là. Ça correspond à quoi, en fait? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup?
Alors, ça correspond à peu près à 10% de l'activité de l'Agence française de développement, donc de l'opérateur de coopération française, qui est une banque. Et ça correspond aussi, pour l'année dernière... à l'alimentation en eau de 2,3 millions de personnes et en assainissement de 400 000 personnes seulement, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est un petit peu plus difficile de pousser l'assainissement que l'eau.
Oui, nous allons en reparler. Serge Bresse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département expertise et plaidoyer Action contre la faim. Vous êtes médecin à la base. Action contre la faim, donc c'est une ONG qui intervient dans une quarantaine de pays en situation d'urgence et aussi post-crise.
Tout à fait. On est sur 45 missions dans le monde, avec plus de 6 millions de bénéficiaires sur des projets eau et assainissement. Donc c'est un domaine qui est présent dans pratiquement toutes nos missions, dans des contextes variés, de l'urgence au long terme, avec des réponses adaptées à ces différents contextes. Et on est membre, bien sûr, de la coalition eau aussi.
Comme le GRET, dont vous faites partie, Julien Gabert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission eau et assainissement au GRET. Donc le GRET, c'est une ONG de développement qui intervient dans une trentaine de pays.
Alors, on intervient dans une trentaine de pays avec une présence permanente dans 13 pays. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est une quarantaine de projets chaque année qui sont mis en œuvre depuis maintenant 40 ans.
Oui, donc on voit bien que, en effet, ce sont des sujets transversaux pour toutes vos associations. Alors, réduire de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès de façon durable à l'eau potable et à l'assainissement de base, c'était déjà finalement l'un des objectifs du millénaire pour le développement que les États s'étaient fixés en 2000. Christelle Maléguet, est-ce que vous diriez qu'il y a eu des progrès depuis?
Alors, effectivement, il y a eu de forts progrès quand même. On a fortement réduit le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Ceci dit...
Dans quelle proportion?
Alors, les chiffres me manquent.
En termes quantitatifs, effectivement, l'objectif a été atteint, de réduction de moitié du nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Après, il reste à voir aussi en termes de qualité.
Voilà. On a effectivement 2,6 milliards de personnes qui ont gagné accès à l'eau depuis que les ODD ont été fixées. Mais il en reste toujours un grand nombre. Et en particulier parce que pendant ce temps-là, la croissance démographique continue et que donc, d'une certaine manière, on court aussi derrière l'augmentation de la population.
Donc, est-ce qu'on peut parler de progrès ?
En fait, au-delà de ces chiffres, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même encore 1,8 milliard de personnes qui boivent toujours une eau contaminée par des matières fécales. Longtemps, en fait, on a communiqué sur des personnes qui avaient accès à une source d'eau améliorée. ce qui ne veut pas dire avoir accès à une eau potable. Donc on parlait d'amélioration sans prendre en compte que les gens finalement n'avaient pas accès à une eau véritablement potable. Donc le problème demeure aujourd'hui. Donc là où on disait il n'y a plus que, pour reprendre des chiffres, 663 millions de personnes qui n'ont pas accès à une source d'eau améliorée, en réalité c'est beaucoup beaucoup plus, 1,8 voire 2 et peut-être plus hein, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une eau potable.
Donc on... Encore faut-il pouvoir vérifier cette potabilité de l'eau ?
Exactement. Donc on se retrouve vraiment à un grand problème d'indicateurs. Donc on constate que oui, il y a une amélioration, mais on est encore loin du compte. Et avec les problèmes de démographie actuels, au contraire, les défis sont de plus en plus importants.
Et les conséquences sanitaires sont très importantes, hein, Serge Bresse.
Tout à fait. Aujourd'hui, il y a encore 600 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année par des problèmes de diarrhée, hein, qui sont majoritairement dus à des problèmes d'eau et d'assainissement. 7 000 personnes au total, adultes, par jour, décèdent du fait de ces problèmes. Et ce qui nous concerne, nous particulièrement, c'est grosse implication et très gros lien entre l'accès à l'eau et à l'assainissement et les problèmes de sous-nutrition, puisque 50% des cas de sous-nutrition que nous, on traite au travers de nos programmes sont dus à des problèmes de diarrhée ou d'infection intestinale. Donc effectivement, un problème aujourd'hui encore très important, et en lien bien sûr avec les populations vulnérables et la pauvreté.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
60% de notre corps est constitué d'eau, c'est donc une ressource essentielle, mais dans certaines régions du monde, elle est de plus en plus rare, notamment à cause des changements climatiques qui bouleversent le cycle des pluies, d'où l'idée d'aider les communautés qui vivent en milieu rural dans ces zones arides. C'est l'objectif de l'ONG Waterhead qui a initié un programme pilote dans 14 villages au Burkina Faso. C'est un reportage de Yaya Boudani.
Face aux inondations, à la sécheresse ou la pollution, l'ONG WaterAid expérimente dans certains villages des méthodes de gestion des ressources en eau. Alidou Kwanda est le représentant de WaterAid au Burkina Faso.
Simplement pour faire en sorte que la question, par exemple, des changements climatiques et du renforcement de la résilience des populations, notamment pour ce qui concerne le volet gestion des ressources en eau, puisse se traduire concrètement sur le terrain, plutôt que ce soit des approches qui soient simplement conçues et manager au niveau des bureaux, pour que les communautés elles-mêmes elles puissent comprendre les implications des changements climatiques sur une ressource aussi rare, aussi importante que l'eau.
À quelques pas de la seule pompe du village de Basbedo se trouve un espace protégé des animaux par un grillage. C'est là que Sorgo Bila, l'un des lecteurs, nous présente son pluviomètre.
C'est une zone qu'on a délimitée, installée en fait un pluviomètre pour suivre en fait la pluviométrie au cours de l'année. À l'approche de la saison pluvieuse, nous installons en fait le bocal pour recueillir la collecte de l'eau. Et en fait, juste après une pluie seulement, nous venons relever en fait le niveau d'eau.
Grâce à ces mesures et prises de notes après chaque pluie, le lecteur informe tout le village sur le comportement à adopter pour les travaux champêtres.
Avant, on travaillait seulement comme ça, sans aucune forme de mesure. Donc, après une pluie seulement, on ne sait pas si la quantité d'eau tombée en fait, est suffisamment pour commencer en fait, les semis ou pas. Donc, on travaille au hasard. Donc, ça ne nous permettait pas en fait, de rentabiliser, d'économiser.
En plus des mesures sur la quantité d'eau issue des pluies et le contenu des puits, la pompe du village est équipée d'un dispositif. Un appareil qui sert à vérifier la fluctuation de la nappe d'eau souterraine. Alice Bonkungu, assistante technique au bureau de WaterAid au Burkina Faso.
Ici, on a essayé de modifier le forage. On a introduit un logger, ce qui est un enregistreur automatique. Et ce suivi est fait par les agents techniques en charge de l'eau. Donc, chaque 3 mois, ils viennent retirer cet enregistreur-là et les données sont directement transférées sur un ordinateur et ils voient la fluctuation des ressources en eau souterraine.
Cela fait 3 ans que le village expérimente cette technique de gestion des ressources en eau. Et les résultats sont satisfaisants, selon Malka Lebende, le chef du village de Basbedo.
Pour ce qui est de l'agriculture, cela fait 3 ans que nous relevons la pluviométrie. Nous savons à quelle période débute la saison des pluies. À l'approche de la saison, nous préparons les champs. Et en fonction de la pluviométrie, nous faisons les semis. Vers la fin des pluies, nous commençons à évaluer la saison agricole. et nous essayons de recadrer nos travaux vers la fin de la saison.
À intervalles réguliers et en fonction de la quantité d'eau disponible, un programme d'utilisation de l'eau est imposé à tout le village. Fatoumata Sorgo, habitante du village et mère de 3 enfants.
Avec l'ignorance, le point d'eau n'était pas bien géré, mais le suivi et les causeries ont permis de réorganiser la gestion du point d'eau. On a réglementé l'usage de l'eau. On ouvre la pompe de 6h à 18h et l'accès est interdit aux enfants. Les femmes savent à quel moment elles ont accès à la pompe. Les éleveurs également ont leur temps d'utilisation. Il n'y a plus de conflit autour de l'eau.
Bien avant l'expérimentation de cette approche de sécurisation des ressources en eau, ces agriculteurs ont enregistré de nombreuses pertes dues à une méconnaissance des périodes favorables au semis. L'assistante technique Alice Bonkongou donne plus de précisions sur les périodes favorables pour l'agriculture.
Donc ils commencent à préparer les terres au cours des premières pluies, mais les semis même c'est à partir de 20 mm. Qui peuvent commencer à semer.
Chaque semaine, les lecteurs mesurent le niveau d'eau dans les puits. Ferdinand Kabore, responsable du projet au niveau de l'association d'Akupa.
Ils partent au niveau du puits très tôt le matin avant que les femmes ne commencent à puiser l'eau pour reprendre le niveau d'eau au niveau du puits. Et ça se fait une fois par semaine. Tous les 6 mois, ils font cette représentation graphique à partir des données collectées là pour présenter avec la population. Donc en fait, quand c'est tracé comme ça, la population en fait qui est analphabète voit comment en fait l'eau descend au niveau du puits, comment ça monte. Ils savent en fait à quel mois en fait l'eau a baissé et quand ça baisse en fait jusqu'à une période très, très critique là, en fait ils échangent avec la communauté pour voir en fait quelles sont les contraintes que ça va poser et ensemble en fait ils essaient de prendre des décisions par rapport en fait aux différents usages.
L'objectif principal de cette expérience est de mettre à la disposition des populations rurales des outils de collecte et d'analyse des informations selon Alidou Kwanda, le représentant de WaterAid au Burkina Faso.
Les objectifs, c'est pouvoir mettre à la disposition des communautés, à la base, des outils simples pour leur permettre d'organiser la collecte de l'information en rapport avec les ressources en eau. Et une fois que cette information est disponible au sein de la communauté, que la communauté elle-même décide des différents choix en termes de partage, d'organisation, du partage de la ressource.
D'ici la fin de l'année 2017, les populations pourront elles-mêmes se prendre en charge selon le représentant de WaterAid. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI.
Et comme les résultats sont satisfaisants, l'ONG WaterAid va étendre ce programme à des villages au Niger et au Mali. Christelle Maleg, on entend bien à travers ce reportage que la gestion de la ressource en eau peut s'apprendre, hein, surtout dans les zones arides. Ça marche ?
Alors ça marche, effectivement, la question de la gestion de l'eau est vraiment au cœur de l'adaptation au changement climatique. Il faut avoir en tête que l'eau est le principal vecteur par lequel les changements climatiques s'expriment et ont un impact et sur les hommes et sur l'environnement, avec des impacts, comme on l'a vu dans le reportage, sur tous les aspects du développement, accès à l'eau, à l'assainissement, sécurité alimentaire, etc. Mais pour autant, l'eau est vraiment aussi une réponse au changement climatique. Et la gestion de l'eau est vraiment au cœur de cette réponse-ci. Et effectivement, si on renforce les capacités, les connaissances en fait des communautés locales pour pouvoir en fait gérer cette eau, elles pourront mieux en fait s'adapter face aux impacts du changement climatique et mieux y répondre. Et donc seront moins vulnérables par rapport à ces effets.
Il y a urgence de s'adapter, hein, Cécile Brenière. L'AFD a publié un communiqué de presse cette semaine dans lequel vous déclariez que d'ici 2030, la pénurie d'eau concernera 40% de la population mondiale. Quelles sont les principales causes ?
Alors, il y a effectivement différentes causes. Hein. D'abord, bien sûr, la diminution de la ressource liée, entre autres, au changement climatique, hein, avec des zones de stress hydrique plus fréquentes. Donc, c'est là où il pleut le moins aujourd'hui qu'il va pleuvoir encore moins.
C'est-à-dire, en gros, bassin méditerranéen, Afrique du Nord, Moyen-Orient.
L'arc méditerranéen, ouais, tout autour de la Méditerranée, que ce soit le Maghreb, mais jusqu'à la Turquie et même le Moyen-Orient, effectivement. Et puis après, le Sahel est aussi relativement touché, mais aussi certaines zones arides d'Amérique latine, comme le Mexique. Ensuite, ça, c'est un des facteurs. Donc, il y aura moins d'eau douce parce que moins d'eau douce dans les rivières, moins d'eau douce dans les nappes. Mais en plus, on a des modes de consommation qui consomment de plus en plus d'eau. Hein. C'est-à-dire que, bah, évidemment, que ce soit la consommation des produits manufacturés qui utilisent beaucoup d'eau pour la produire. Je crois que produire un jean, c'est 15 000 mètres cubes d'eau, par exemple. Ou bien que ce soit les modes d'alimentation. Hein. Un kilo de bœuf, je crois que c'est 3 000 litres d'eau ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, le gros de l'eau qu'on consomme, c'est pas l'eau qu'on boit, c'est l'eau qu'on mange, c'est l'eau qu'on
utilise. Ce qu'on appelle l'eau virtuelle.
Voilà. Et donc, l'augmentation de ces modes de consommation, plus, comme je le disais tout à l'heure, l'augmentation de la démographie, bah, ça fait qu'en fait, on a de plus en plus de demandes et de moins en moins d'eau. Donc, on se retrouve dans un contexte difficile, d'autant plus que le peu d'eau qu'on a est de plus en plus pollué parce que les populations se concentrent, et en particulier autour des grosses villes avec les zones industrielles. En plus, donc, le peu de ressources en eau qu'on a, on le salit beaucoup, et donc il est moins utilisable pour les différents usages. Donc effectivement, il y a vraiment urgence à une prise de conscience qui est largement aggravée par le changement climatique.
Oui. Julien Engaber, est-ce que vous ressentez dans les différents pays où vous intervenez cette pression sur la ressource ?
La pression sur la ressource, effectivement, avec le changement climatique, c'est quelque chose qui se ressent. On parlait du Sahel. Au Sahel, il y a de moins en moins d'eau qui arrive chaque année au cours des épisodes pluvieux. Et paradoxalement, on a une concentration de ces pluies de plus en plus sur des événements ponctuels qui amènent des inondations. Donc c'est assez paradoxal. Et c'est effectivement des choses qu'on voit sur le terrain et sur lesquelles il faut accompagner les acteurs locaux, comme on a pu le voir dans le reportage, à essayer de gérer cette ressource et gérer ces changements à l'avenir, arriver à planifier un petit peu l'avenir là-dessus.
Alors Serge Brett, vous intervenez aussi dans des situations de crise, donc on va dire que c'est une superposition de crise.
Oui, je voulais insister sur un point. C'est vrai qu'il y a un stress important maintenant sur la ressource en eau et qui va en s'aggravant. Mais ça reste quand même un problème de pauvreté avant tout et d'accès à l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore assez d'eau douce pour répondre à l'ensemble des besoins des populations. On parlait aussi de l'eau, vous parliez de l'eau pour la fabrication industrielle. 70% de la consommation de l'eau mondiale est pour l'agriculture, hein, ce qu'on va appeler l'eau agricole. Aujourd'hui, c'est aussi une question de gouvernance et de décision politique et de financement pour permettre aux plus vulnérables d'avoir accès à l'eau, au-delà des problèmes aussi de changement climatique.
Mais alors, je débutais cette émission en disant que 193 États s'étaient engagés à ce qu'il n'y ait plus de problème d'eau d'ici 2030. Donc vous voulez dire que, en fait, ça c'est de l'affichage, mais que concrètement, quand on regarde ce que fait chaque pays, c'est moins simple.
Non, ce qui est intéressant, c'est entre autres dans cet engagement des États sur lequel Action contre la faim, comme d'autres avec Coalition, a travaillé, c'est qu'on parle maintenant d'un accès universel, hein, entre autres pour les questions d'eau.
Mais c'est très joli, accès universel,
oui, mais si on veut,
dans les pays, concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que si on veut réussir ça, il faut avoir des réels systèmes de gouvernance de l'eau et des réels systèmes qui permettent de tirer les tuyaux, je dirais, entre autres. Hein. Je vous rappelle que maintenant, on a plus de la moitié de la population qui est en urbain. Donc les problèmes, c'est aussi des accès à de l'eau qui peut être disponible, mais qui n'arrive pas jusqu'aux personnes, entre autres dans les bidonvilles, dans les situations difficiles. Et qu'il faut un réel effort politique. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'atteindre ces objectifs en 2030 s'il y a plus de financement, s'il y a une vraie réflexion sur la gouvernance et le partage de l'eau. Donc l'inégalité, l'inéquité de l'accès à l'eau est une donnée très importante à avoir en tête.
Alors Christelle Malek, c'est vrai qu'on a en tête des émeutes de l'eau, hein, avec certaines entreprises qui essayaient de gagner de l'argent sur... C'est normal aussi, hein, ça coûte de l'argent d'installer des tuyaux, de nettoyer les eaux usées, etc. Donc c'est quoi les solutions dans les pays en développement où souvent l'argent manque et où les priorités sont très nombreuses sur le bureau ?
Alors effectivement, c'est vrai que la question du tarif de l'eau est majeure. On se rend compte que dans certains pays, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça représente, en fait, payer l'eau, ça représente près de la moitié en fait du salaire journalier des personnes en bas revenus. Donc c'est vraiment une problématique essentielle. Mais en termes de solutions, effectivement, comme le disait Serge Bresse, si on met l'accent sur la volonté politique, sur les moyens financiers et aussi sur le renforcement des communautés locales, donc ça veut dire apprendre à gérer l'eau, apprendre à mettre en place en fait des systèmes, des infrastructures, etc., on peut avoir des solutions. Donc cet objectif, il est atteignable, en tout cas. il est atteignable si on met en face les conditions, les moyens pour y parvenir. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, on a encore 15 ans pour y arriver.
Bon, et nous, on a juste un petit flash d'info de 3 minutes. Et donc, 3 minutes de patience pour connaître les solutions que vous portez les uns et les autres. Restez avec nous. On se retrouve juste après le flash d'info. À tout de suite.
RFI, la sélection.